du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le sixième dimanche. Descendant avec eux, Jésus s'arrête sur un lieu plat. Il y a là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens, de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon. Ils sont venus pour l'écouter et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui sont tourmentés par des esprits impurs sont guéris. Et c'est en foule qu'ils cherchent à le toucher, parce qu'une force puissante se dégage de lui. Il est guéri tous. Levant ses yeux sur ses disciples, il dit :
Ils sont sur le droit chemin du bonheur, les pauvres. Le règne de Dieu est à vous. Ils sont sur le droit chemin du bonheur, ceux qui ont faim maintenant, car vous serez rassasiés. Ils sont sur le droit chemin du bonheur, ceux qui pleurent maintenant, vous rirez. Vous êtes sur le droit chemin du bonheur, quand les hommes vous haïssent, vous rejettent, vous insultent et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. En ce jour-là, réjouissez-vous et sautez de joie, car votre salaire est grand dans les cieux. Oui, ces choses-là, leurs ancêtres les faisaient aux prophètes. Mais, hélas, pour vous les riches, vous touchez votre consolation. Mais hélas pour vous, les repus de maintenant, vous aurez faim. Mais hélas, les rieurs de maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Hélas, quand les humains diront du bien de vous, oui, ces choses-là, leurs ancêtres les faisaient aux faux prophètes. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Béatitude. Ce texte central de l'Évangile est peut-être celui qui est le moins compris. Souvent même, il provoque la colère ou l'indignation. Peut-il encore être entendu par des oreilles contemporaines? Ou doit-il être accepté malgré tout parce que parole du Christ?
Eh bien, le contexte de ce passage de l'Évangile, après avoir décrit les premiers pas de la mission de Jésus en Galilée, Luc relate que Jésus choisit 12 de ses disciples, 12 qui vont devenir ses apôtres, ses envoyés, pour travailler avec lui à l'annonce de son message.
En ces jours-là, Jésus s'en va dans la montagne pour prier, et il passe la nuit à prier Dieu. Puis, le jour venu, il appelle ses disciples, et en choisit 12, auxquels il donne le nom d'apôtres.
Puis le récit va révéler le contenu du message de Jésus en nous décrivant ce que doit être le vrai disciple. On donne souvent à ce passage le nom de sermon sur la montagne. En effet, dans le récit de Matthieu, c'est sur la montagne que Jésus livre les béatitudes. Et d'ailleurs, celles-ci sont, semble-t-il, dites uniquement pour les disciples. Luc lui présente les choses autrement, sans doute. Il veut montrer que la proposition qui est faite par Jésus ne se limite pas aux 12, mais qu'elle est le portrait de tous les disciples qui vont suivre Jésus au cours de l'histoire.
Descendant avec eux, il s'arrêta sur un endroit plat avec une grande foule de ses disciples et une grande multitude du peuple de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon.
Cette descente de la montagne rappelle Moïse qui était au Sinaï pour recevoir les 10 grandes paroles de la règle de vie. Comme les 10 paroles de Dieu contenaient l'essentiel de l'alliance entre Dieu et son peuple, de même, Jésus donne dans ce sermon comme la charte du renouvellement de l'alliance. Une Torah qui sera inscrite dans le cœur et toute recentrée sur l'amour gratuit.
Ils sont sur le droit chemin du bonheur, les pauvres. Le règne de Dieu est à vous.
Dans un premier temps, On pourrait comparer les deux récits des béatitudes, celui de Matthieu et celui de Luc. Eh bien, relisons Matthieu, ils sont sur le droit chemin du bonheur, les pauvres de cœur, les pauvres d'instruction, on ne sait comment traduire, car le règne de Dieu est le leur. Et Matthieu va énumérer plusieurs catégories de personnes, les doux ou les humbles, les affligés, les affamés et assoiffés de droiture, les miséricordieux, les purs, les artisans de paix, les persécutés. En comparant les deux textes, nous remarquons quelques divergences. La première est que Luc se limite à quatre béatitudes, qu'il va d'ailleurs faire suivre de leur contraire.
Ils sont sur le droit chemin du bonheur, ceux qui ont faim maintenant, car vous serez rassasiés. Mais hélas pour vous, les repus de maintenant, vous aurez faim.
D'autre part, Luc semble souligner davantage que Matthieu les conditions, la condition économique de ces gens-là. On traduit souvent en Matthieu les cœurs de pauvres, alors que Luc parle des pauvres démunis. Eh bien, dans la tradition biblique, les béatitudes expriment différentes facettes du bonheur. La première, c'est l'annonce prophétique d'une joie future.
Mon peuple habitera un séjour de paix, des habitations sûres, des résidences tranquilles. Heureux, vous sèmerez près de tous les ruisseaux, laissant en liberté le bœuf et l'âne.
Une deuxième facette de ce bonheur, c'est l'action de grâce pour une joie qui est déjà présente.
Heureux les habitants de ta maison, ils te louent sans cesse. Heureux les hommes dont la force est en toi.
Troisième facette, c'est la promesse d'une récompense, dans la mesure où l'on met en pratique la sagesse de la Torah.
Heureux l'homme qui médite sur la sagesse et qui raisonne avec son intelligence, et qui réfléchit dans son cœur sur les voies de la sagesse et qui s'applique à ses secrets.
Dans sa prédication à la synagogue de Nazareth, Jésus a dit clairement qu'il est venu pour les pauvres.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
Il s'agit donc d'abord ici de ceux qui sont pauvres des biens de ce monde. Jésus regarde sans doute ses disciples et il décrit leurs conditions modestes. Il regarde aussi les foules qui viennent à son enseignement. À la différence des rabbis de son temps qui enseignaient à des gens instruits, Jésus, lui, veut rejoindre le peuple, ou plus exactement même, tous ceux que la société a marginalisés, les bergers, les petits paysans, les itinérants de l'époque, les mendiants. Et il ne leur dit pas qu'ils sont heureux, qu'ils doivent se contenter de leur sort de misère, comme on pourrait parfois comprendre cette « heureux les pauvres ». Non, être pauvre au sens de miséreux, de misérable, n'est pas intéressant et n'est pas digne de l'être humain qui est un fils de Dieu. Toute personne humaine est appelée à être ce fils et cette fille de Dieu qui doit être donc respecté. Jésus dit que le pauvre est sur le chemin qui mène au bonheur. Le mot hébreu, qu'on traduit habituellement par « bonheur », évoque en effet cette idée de marche. Le bonheur est promis à celui qui marche, comme le disent les psaumes, dans la voie de la Torah, dans la voie de la règle de vie qui est donnée par Dieu.
Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la Torah du Seigneur et récite sa Torah jour et nuit.
Les béatitudes visent donc une joie, à la différence de tout ce que nous venons de dire, une joie qui est accordée gracieusement par Dieu. Si ce sont les pauvres, les petits, les démunis auxquels le bonheur est promis, c'est afin de rendre signifiant que le vrai bonheur est le fruit d'un don et non pas le résultat produit par nos efforts. Ainsi, à la suite de la déclaration de Simon-Pierre sur l'identité de son maître, de Jésus, on lui répond.
« Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas ? Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. »
Le vrai bonheur est donc un don. On pourrait dire qu'il est joie et non pas plaisir. Le plaisir, en effet, vient des choses que l'on consomme, alors que la joie, elle, on pourrait dire qu'elle vient des personnes. Le plaisir serait le fruit produit par un geste, par une action. On a plaisir à manger tel fruit, par exemple. La joie serait ce qui nous est donné par un autre. Elle doit être accueillie comme l'amitié. Cette joie est pour les pauvres dans la mesure où leur pauvreté les rend précisément accueillants aux personnes. Le pauvre lui ne peut pas mettre son bonheur dans la recherche des plaisirs. Ses plaisirs lui sont le plus souvent interdits parce qu'il ne peut pas se les payer. Mais la joie de l'amitié lui est le plus souvent possible. Il suffit d'évoquer les rêves des enfants de la rue dans les pays pauvres. Ils parlent tous d'avoir une famille, une épouse, un époux, des enfants. Jésus ne cessera d'inviter chacune et chacun à chercher la vraie joie dans des relations gratuites. En effet, Luc va être le seul des évangélistes à rapporter la réflexion de Jésus sur les invités à un repas.
Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni de riches voisins. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre.
C'est dans le récit de Luc que se trouvent mises en relief les exigences de Jésus sur la pauvreté. Et cela est dans la priorité aussi à donner aux personnes avant la richesse des biens matériels. Évoquons ce qu'il dit à propos de l'attitude du riche Zachée qui partage ses biens.
Zachée s'avance et dit au Seigneur, « Eh bien, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. »
Jésus va inviter son disciple à se détacher de ses biens matériels, à ne pas faire de l'argent le trésor de son cœur.
« Vendez ce qui vous appartient et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor qui ne vous fera pas défaut dans les cieux. »
Et c'est aussi la même recommandation, un peu radicale, qu'il fait à l'homme riche qui s'interroge sur ce qu'il doit faire pour recevoir la vie éternelle en partage.
L'ayant entendu, Jésus lui dit, « Une seule chose encore te manque. Tout ce que tu as, vends-le, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Quand il entendit cela, l'homme devint tout triste, car il était très riche.
Distribue ton bien aux pauvres. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est à ceux, justement, qui ne peuvent rien donner en contrepartie. Et cela, donc, va apprendre la gratuité et la joie. À travers ces paroles, c'est toujours la même consigne de sagesse qui est donnée. Ta richesse matérielle risque de t'empêcher de vivre la gratuité dans les relations. Si tu ne vis pas la gratuité de l'amour, eh bien tu ne connaîtras jamais la joie et tu ne connaîtras pas la communion avec Dieu. Car Dieu, lui, ne se situe que sur ce plan de la gratuité. L'amour de Dieu ne peut être que grâce. Et seul celui qui vit de la grâce entre dans le règne de Dieu, entre dans sa paternité.
Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.
Cette préférence accordée aux pauvres et aux petits souligne donc la gratuité de l'amour de Dieu. Aucun être humain ne peut s'approprier ou s'accaparer les dons divins. Nous les recevons gratuitement, comme tout être humain reçoit la chaleur et la lumière du soleil. L'Évangile nous ouvre donc au partage et à la compassion pour les petits, les pauvres, les démunis. En partageant avec eux, en devenant leur ami, nous allons apprendre d'eux à partager et à fraterniser. Évoquons quelques exemples. Durant la longue panne d'électricité causée par le verglas en 1998, Alain, qui est un petit aux yeux du monde puisqu'il a un petit handicap mental, s'est rendu dans des centres d'hébergement pour rendre des services et soutenir le moral des personnes âgées. Henri, un célibataire qui lui aussi souffre d'un handicap, mais un handicap physique, ne se ferme pas sur lui-même. Il fréquente des personnes seules et démunies. Il les aide en leur rendant des petits services de tout genre. Il s'est donc trouvé, lui, un mode de vie qui le rend heureux en partageant ses capacités d'entraide avec des personnes qui sont, comme lui, démunies. Et il est devenu un véritable rayon de soleil qui éclaire et réchauffe bien des gens depuis plus de 20 ans. Eh bien, en proclamant les pauvres heureux, Jésus ne veut pas, bien sûr, les inviter à rester dans leur misère. Continuellement, au contraire, nous le voyons leur tendre la main pour les relever. Et il invite son disciple à faire de même.
J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez recueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez visité. En prison, et vous êtes venus à moi.
Eh bien, toutes ces personnes, soit les malades, les pauvres, les prisonniers, sont des personnes qui ne peuvent rien rendre et qui ne pourront donc que recevoir ce qui leur est donné. En quiconque s'implique auprès des démunis, nous pouvons donc percevoir l'action aimante de Dieu. Nous allons maintenant évoquer une réflexion de Florence Bruce qui défend la cause des enfants. Grâce à l'action et à la prière, elle sait qu'aucun d'entre eux, même le plus blessé, même le plus exploité, n'est jamais perdu.
Pour évoquer cette formidable capacité des enfants à vivre et à survivre, malgré toutes les oppressions dont ils sont victimes, nous utilisons le mot de « résilience ». Il s'agit d'un thème emprunté au vocabulaire scientifique qui désigne la résistance au choc. Un enfant ne sortira peut-être pas indemne de la guerre ou de la prostitution, mais nous croyons et nous constatons qu'il a en lui, les capacités de s'en sortir. Cette conviction guide notre action. Ne jamais renoncer, croire au potentiel de chaque enfant, même le plus traumatisé, découvrir avec lui qu'il a toujours un espoir. Nous avons le sentiment de semer des graines. Et nous faisons confiance, sachant que Dieu fait lui aussi son travail. La résilience n'est ni un rebondissement, ni une guérison totale, ni un retour à un état antérieur sans blessure. Il s'agit d'une ouverture sur une nouvelle croissance, une nouvelle étape dans la vie. La cicatrice de la blessure reste présente, mais une nouvelle vie peut commencer. Pour un chrétien, cette expérience très concrète de résilience fait pressentir la dynamique profonde de la croix et de la résurrection. Le Christ nous a montré qu'il n'était pas nécessaire de chercher à revenir à ce qu'était la vie avant le malheur. Il nous a libérés de cette aliénation en nous indiquant une autre voie. Notre vie brisée, nos blessures peuvent se transformer en une vie nouvelle et inattendue. Et cette régénération peut commencer à se produire ici et maintenant. Les enfants que nous accompagnons ne cessent d'en témoigner. Mais hélas, pour vous les riches, vous touchez votre consolation.
Vous touchez votre consolation, comme on dit, vous touchez un salaire. Car, pour Jésus, les relations du riche sont malheureusement souvent éloignées de la gratuité, conditionnées par le sens des affaires. Souvent, le riche ne donne pas vraiment. Il attend un retour au geste qu'il pose, une reconnaissance.
Si vous aimez ceux qui vous aiment, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, les pécheurs eux-mêmes en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendent, même des pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent.
Et Jésus tiendra un langage semblable à ceux qui prennent appui sur leur pratique de la Torah plutôt que de compter sur l'amour de Dieu.
Mais malheureux êtes-vous, pharisiens, vous qui versez la dîme de la menthe, de la rue et de tout ce qui pousse dans le jardin, et qui laissez de côté la justice et l'amour de Dieu. C'est ceci qu'il fallait faire sans négliger cela. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. »
Malheureusement, ce pharisien sera comme le frère aîné de la parabole du fils prodigue. Il sera incapable de partager la joie de revenir de voir revenir le frère qui était perdu. Trop préoccupé de sa bonne conduite, pour laquelle il calcule la reconnaissance de son père, « Tu ne m'as jamais donné un chevreau pour fêter avec mes amis, » dit-il. Ce fils aîné est incapable de pardon et donc de vraie joie. On traduit souvent « malheur à vous ». Mais l'expression juive exprime moins une malédiction qu'une profonde douleur ou une indignation, comme l'exclamation « hélas ». Jésus en effet ne souhaite pas du mal aux riches, il déplore au contraire que leur situation privilégiée les fasse passer à côté de la gratuité qui est la seule voie du bonheur. Et il leur lance un vigoureux appel à la conversion. L'attachement aveugle à l'argent tourne le cœur humain vers les biens matériels, il l'éloigne de tout partage fraternel et donc de la vraie communion avec Dieu. En ayant touché leur récompense, c'est-à-dire en ayant toujours vécu le donnant-donnant dans toute relation humaine, ces riches calculateurs se sont fermés à l'amour de Dieu qui est pure gratuité. C'est ce que dit Abraham au riche dans la parabole, au riche qui n'a pas su partager avec le pauvre Lazare qui est affamé.
Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bonheur durant ta vie comme Lazare le malheur. Et maintenant, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. De plus, entre vous et nous, il a été disposé un grand abîme, pour que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent pas, et que de là non plus on ne traverse pas vers nous. Ils sont sur le droit chemin du bonheur, ceux qui ont faim maintenant, car vous serez rassasiés. Mais hélas pour vous, les repus de maintenant, vous aurez faim.
Eh bien, on peut se souvenir ici de la parabole du riche insensé, une parabole qui est encore propre à Luc.
Il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté, et il se demandait « Que vais-je faire, car je n'ai pas où rassembler ma récolte ?» Puis il se dit « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y rassemblerai tout mon blé et mes biens. Et je me dirai moi-même, te voilà avec quantité de biens en réserve pour de longues années. Repose-toi, mange, bois, fais bombance. »
Oui, un tel riche ne peut pas voir la situation d'un Lazare qui est affamé. Et en comparaison, voyons comment l'évangéliste va décrire ce Lazare.
Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses ulcères.
Luc est sans doute très conscient que de telles situations d'inégalité existent au cœur même des communautés chrétiennes, ces communautés qui sont nées donc après Pâques. Dans son second livre, Les Actes des Apôtres, il va tracer justement un portrait un peu idyllique de la communauté.
Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun. Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple. Ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité de cœur. Nul des croyants ne se disait propriétaire de ce qu'ils possédaient, mais on mettait tout en commun. Aucun d'entre eux n'était dans la misère, car on redistribuait une part de l'argent mis en commun à chacun des frères au fur et à mesure de ses besoins.
Eh bien voilà sans doute un idéal qui a été difficile à vivre. Il inspirera d'ailleurs plus tard les communautés religieuses. Et c'est encore ce qui inspire ou qui devrait inspirer tout geste de solidarité entre chrétiens. Au début du christianisme, la collecte qui était faite lors des repas sacrés était destinée aux pauvres et aux veuves. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui le sens que devrait retrouver la quête du dimanche, une quête de partage et de solidarité pour qu'il n'y ait pas de miséreux au sein de la communauté? Et la dîme alors serait davantage consacrée aux dépenses de salaire des permanents et à l'entretien des immeubles. Thank you.
Vous êtes sur le droit chemin du bonheur, quand les hommes vous haïssent, vous rejettent à cause du Fils de l'homme. En ce jour-là, réjouissez-vous et sautez de joie, car votre salaire est grand dans les cieux. Oui, ces choses-là, leurs ancêtres les faisaient aux prophètes. Hélas, quand les humains diront du bien de vous, oui, ces choses-là, leurs ancêtres les faisaient aux faux prophètes.
La recherche de la joie ne peut pas se faire sans détachement, mais aussi sans risque d'aller à contre-courant du monde et d'en être donc rejeté. Le règne de Dieu qui parle de gratuité et d'amour, il faut bien le comprendre, est le renversement des situations mondaines qui, elles, parlent de quête insatiable de richesse et de recherche de récompense et de reconnaissance. C'est pourquoi celui qui a choisi de ne rien exiger de l'autre ne devrait pas ensuite lui reprocher de ne rien donner. Et c'est hélas ce qui nous arrive bien souvent. Une relation gratuite sera toujours une conviction à renouveler, une sagesse à demander à Dieu. De plus, celui qui vit de gratuité devra s'attendre à être le plus souvent ignoré et même exploité. Comme le dit Jean Sullivan, l'Évangile est une arme à double tranchant. Il ne nous dit pas simplement que Dieu nous aime, mais il nous dit aussi que son amour est inséparable de la blessure, de la souffrance. Il nous apporte la vie et il nous demande, d'une certaine manière, de mourir à nous-mêmes. L'amour ne peut nous atteindre que par la croix. L'amour qui sauve passe par le Christ crucifié. La joie véritable, le disciple de Jésus la trouvera dans cette certitude qui est une certitude d'espérance, que c'est finalement, au terme, la bonté et la générosité qui pourront vaincre l'indifférence, la cupidité et l'égoïsme.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission La cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
514-256-4110. Vous nous trouverez également sur Internet. Notre site est à www.relaismontroyal, en un seul mot, sans tiret, relaismontroyal.com.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.